Il est 8h.
Nos interlocuteurs sont persuadés qu'il y a une reprise de l'économie au niveau mondial qui est en train de se profiler. Donc ils investissent massivement pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Les États-Unis redémarrent, leur économie rebondit très fort et elle achète des produits et des services français. Nos entreprises dans le sillage des Américaines, c'est le dossier d'Europe 1 dans un instant. Dans ce journal, le triomphe de l'ARN messager. La technologie du vaccin de Pfizer, ça y est, toute l'industrie pharmaceutique s'y met, même Sanofi. Et puis nous verrons qu'il ne fait pas bon être français au Pakistan, où de grandes manifestations visent directement le consulat à Karachi. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Vaccination, campagne européenne, horizon de sortie de crise. Rendez-vous à 8h15 avec le monsieur vaccin de Bruxelles.
C'est juste après ce journal, il est 8h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Parfois, les statistiques sont dépassées. Depuis 30 ans que la Chine publie son taux de croissance tous les trimestres, jamais on n'avait vu ceci. 18% de hausse de son PIB sur ce début d'année 2021 par rapport à l'année passée. Reprise solide et pas artificielle, nous disait Nicolas Barré dans son éclairage éco à 7h15. Le redémarrage qui est en route aussi aux États-Unis. On parle même d'un mini-boom grâce à une vaccination très rapide et à un plan de relance qui a distribué des chèques aux Américains.
Alors on est content pour les Américains, hein, mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que la France en profite. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour, bonjour à tous.
Les États-Unis sont l'un des principaux marchés d'exportation de nos entreprises.
Oui, le deuxième derrière l'Europe. Donc si leur économie repart, eh bien ce sont potentiellement de nouveaux contrats pour nos entreprises. Avec les bars et les restaurants qui commencent à rouvrir, les premiers à en profiter, ce sont nos producteurs de vin, de champagne ou encore de cognac. Un vigneron m'expliquait que ses équipes sont en pleine opération marketing en ce moment sur les terrasses de New York. C'est clairement de la croissance en perspective, surtout bien sûr maintenant que les taxes américaines sont suspendues.
Et le redémarrage américain profite à tous les secteurs.
Tous. C'est vraiment un état d'esprit qui est là. Mathieu Beuchet le sent depuis plusieurs semaines déjà. Il dirige Klaxoon, une entreprise qui propose des applications pour dynamiser les réunions en présentiel.
On sent effectivement une reprise sur le territoire américain avec depuis quelques semaines trois fois plus de demandes d'équipement sur des usages spécifiques qui sont ceux du lancement produit ou de tout ce qui va être de lancement de nouvelles offres. Ils sont dans un mode « on y va, il faut investir, c'est reparti, on y croit ».
Pareil pour Louis de Rangère, lui fournit des machines à l'industrie américaine et il ne s'attendait pas du tout à recevoir autant de commandes.
Nos interlocuteurs sont persuadés qu'il y a une reprise locale, mais il y a une reprise de l'économie au niveau mondial qui est en train de se profiler. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est être prêts à pouvoir fournir au niveau mondial et ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements. Donc, ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes, pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Oui, donc ça y est, Carole, là, on peut dire que le train de la relance est vraiment parti.
Complètement. Et il va même encore s'accélérer. Il y a un point notamment à scruter, c'est le plan de 2000 milliards de dollars pour rénover toutes les infrastructures du pays. Là aussi, nos entreprises françaises pourraient en profiter, selon Arnaud Leretour. Il est responsable de Business France aux États-Unis.
Évidemment, dans le domaine par exemple de la Smart City, de la mobilité, dans le domaine des bus électriques, de l'automobile électrique, je pense qu'en effet, les entreprises françaises pourront bénéficier clairement, oui.
Mais encore faut-il que ce plan extrêmement ambitieux soit voté. Il promet des débats houleux, en tout cas, dans les mois qui viennent.
Dossier signé, Carole Ferry, du service économie d'Europe 1.
Pour ce qui est de la réouverture du pays, le nôtre, Emmanuel Macron a dit hier à une quinzaine de maires qu'il comptait toujours rouvrir musées et terrasses à partir de la mi-mai, puis d'autres lieux, par étapes, toutes les trois semaines, si tout va bien. Calendrier qui reste imprécis, mais sur France 2, à la sortie des différentes réunions autour du président, Bruno Le Maire a assumé cette prudence de l'exécutif.
Il faut avancer progressivement. Rien ne serait pire que de dire à la mi-mai, on commence à tout rouvrir. Et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard, parce que le virus revient, on sera obligé de tout refermer. Donc nous agissons en anticipant, en prévoyant des rouvertures qui seront en fonction de la situation sanitaire à la mi-mai. Et je ne peux pas vous dire si ce sera territorialisé ou pas. Ça dépendra une fois encore de la situation sanitaire. Nous anticipons.
Nous anticipons, dit le ministre de l'économie. Voilà que le patron mondial du laboratoire Pfizer lui donnerait plutôt raison.
Interview ce matin au journal Les Échos, Albert Bourla le dit. L'Europe n'est pas en retard. En réalité, pour lui, l'Union européenne est même une machine bien huilée. Le directeur général du labo américain, dont le vaccin est aujourd'hui le plus injecté en France, évoque l'hypothèse d'une troisième dose. Pour lui, cette épidémie va devenir comme la grippe. Nous serons vaccinés et nous aurons auront une vie normale.
Son vaccin, rappelons-le, repose sur la technologie de l'ARN messager, une innovation qui fonctionne visiblement si bien que toute l'industrie pharmaceutique est en train de s'y mettre, Victor Dolande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais cliniques de phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a dopé la recherche sur les vaccins à ARN messager, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination à ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante et surtout plus de labos pour développer des vaccins ARN messager. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles pour le monde entier dans les années à venir.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1.
8h06 sur Europe 1, la loi contre les violences sexuelles sur mineurs définitivement adopté par le Parlement.
Aucun adulte agresseur ne pourra se prévaloir du consentement d'un mineur en dessous de 15 ans, souligne le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ce seuil qui est fixé à 18 ans en cas d'inceste. Autre réforme adoptée hier après des mois de débats et de manifestations, la proposition de loi Sécurité globale, un texte remanié au Parlement, y compris son célèbre article 24, Guillaume Biais.
Oui, article qui a été complètement réécrit. Au final, il ne sanctionne plus le fait de diffuser des images de gendarmes ou de policiers à des fins malveillantes, mais uniquement la provocation à l'identification dans le but de porter atteinte aux forces de l'ordre ou à leur famille. Délit qui sera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Autre changement par rapport à la version initiale, les images des caméras piétons, elles ne pourront finalement pas être diffusées dans les médias. C'était pour contrer les vidéos des réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas alimenter une guerre des images. Pour les drones, pas de reconnaissance faciale autorisée et l'utilisation de ces drones est limitée à certaines situations. L'essentiel du texte porte sur les polices municipales. Leurs missions sont renforcées, squat de hall d'immeubles, conduite sans permis. Les agents municipaux vont élargir leur champ de compétences, plus création d'une police municipale à Paris. Quant aux vigiles, les 170 000 agents de sécurité privée, eh bien, ils seront plus étroitement contrôlés et sanctionnés en cas de dérapage.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes en région parisienne, forte odeur de fumée et circulation très perturbée ce matin au nord de Paris, et ce, du fait d'un incendie dans un entrepôt de 4000 m² situé dans le secteur de Saint-Denis-Aubervilliers. Grosse perturbation sur la 86 et trafic interrompu sur le RERB.
Vous restez avec nous dans un instant. Ce tir terrible d'un policier de Chicago sur un adolescent de 13 ans.
Et puis les raisons de la colère au Pakistan, où les ressortissants français sont potentiellement menacés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une vidéo effrayante, une course-poursuite à pied et cette détonation qui déchire la nuit à Chicago. La scène est filmée par le policier qui tire, sa cible s'effondre aussitôt. C'est un adolescent de 13 ans, il était en train de se retourner pour lever les mains en l'air quand le coup part. La maire de la ville de Chicago, Lori Lightfoot, a choisi hier de diffuser ces images qui datent de la fin mars.
Aucun parent ne devrait voir une vidéo des derniers moments de son enfant diffusée à grande échelle. C'est atroce. C'est extrêmement difficile. Nous avons échoué à protéger Adam. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer avec un autre jeune dans notre ville.
Pas de réaction pour l'instant de la Maison Blanche. Par ailleurs, cette nuit, dans une fusillade a fait plusieurs victimes à Indianapolis, toujours aux États-Unis, dans un local de l'aéroport international.
Au Brésil, le président Jair Bolsonaro lui avait souhaité de pourrir en prison, mais voilà que Lula, l'un de ses prédécesseurs, pourra être candidat à la présidentielle brésilienne en 2022. La Cour suprême du Brésil confirme que ses condamnations pour corruption sont annulées.
La nouvelle a surpris hier. La France demande à ses ressortissants et ses entreprises installées au Pakistan de quitter le pays.
Oui, l'ambassade fait état de menaces sérieuses sur les intérêts français. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est une rancœur ravivée qui inquiète. Pour comprendre, il faut remonter au mois d'octobre dernier, l'assassinat de Samuel Paty. Emmanuel Macron défend alors le droit à la caricature et donc les dessins de Mahomet, tollés dans le monde musulman, notamment au Pakistan, où pour calmer les esprits, le gouvernement propose d'expulser l'ambassadeur de France avant le mois d'avril. Nous y voilà, le représentant français est toujours là et le principal parti islamiste radical multiplie les manifestations anti-françaises pour réclamer son départ. Moins d'un millier de nos compatriotes vivent là-bas. La grande majorité a la double nationalité, ce qui rassure Hussein, un franco-pakistanais de Karachi.
Les binationaux, ils ne sont pas identifiés comme des ressortissants français par le public. Hein. Certaines marques françaises peuvent être affectées.
Sanofi, Carrefour ou encore Schneider Electric sont très implantés là-bas. L'Oréal a déjà fait l'objet d'un boycott, mais ce qui semble le plus menacé, ce sont les représentations diplomatiques françaises. Des conteneurs maritimes ont été ajoutés le long du mur d'enceinte de l'ambassade et des Rangers, une force paramilitaire pakistanaise, sont déployés à proximité.
Jean-Sébastien Soldaini, c'est l'une des voix, l'un de ces visages familiers que le Covid nous a pris. Il y a tout juste un an, le chanteur Christophe était emporté par la maladie, mais aujourd'hui, loin d'être cantonné à ses tubes des années 70, son œuvre est vivante grâce à la nouvelle scène musicale, des artistes qui s'inspirent ou réinterprètent sa musique. Angèle Châtelier.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi.
J'ai longtemps cherché.
Et pour Hervé, révélation masculine aux victoires de la musique cette année, Christophe était un précurseur, un technicien de la musique qui a toujours su capter l'air du temps.
Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui, et c'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps, les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble, il sera toujours noble.
Je vois tout, j'entends tout, je ne dis jamais rien.
Alors aujourd'hui, de nombreux artistes se réapproprient ses plus grands tubes, comme le groupe d'électropop parisien Thérapie Taxi avec Aline.
Et j'ai crié,
ou encore Johan Papa Constantino, 29 ans, qui cumule des millions d'écoutes sur sa reprise des mots bleus, légèrement plus dansante que l'original.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Et Christophe était si curieux et à l'affût des nouveautés musicales qu'il y a encore 2 ans, il invitait les nouveaux artistes à succès dans un album de duo, comme Jeanne Haddad ou Juliette Armanet.
Et je suis comme une boule de
Et ben voilà, on est reparti pour écouter du Christophe en version originale ou version nouvelle scène toute la journée.
Mais ça fait du bien, on va avoir ça dans la tête, mais c'est version revisitée de Christophe. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous dans quelques secondes. Sonia Mabrouk et son invité Thierry Breton, le monsieur vaccin européen, le commissaire européen en charge du marché intérieur. À tout de suite.